En cette fin d'après-midi, alors que débute son heure de pointe, Deepak a déjà effectué 3 voyages. Un aller-retour au 7e pour monter M. Williams, un chroniqueur de la chaîne Fox News. Un autre pour descendre M. Grumlat, le comptable qui occupe un bureau au premier étage. Et maintenant, un trajet vers le 6e avec le Golden Retriever des Clairs, un couple de Français. Leur gouvernante récupérera l'animal sur le palier, confiera à Deepak un billet de 10 dollars qu'il remettra aussitôt au promeneur de chiens qui attend son dû dans le hall. Deepak consulte sa montre. Madame Collins ne tardera pas à l'appeler. La veuve doit s'évertuer à fermer sa porte à triple tour, comme si quelqu'un pouvait pénétrer dans l'immeuble sans qu'il l'ait accueilli. Mais les manies des occupants au numéro 12, 5e avenue, font partie de son quotidien. Plus encore, elle le constitue. Après avoir aidé Madame Collins à retirer sa clé du verrou, il l'a conduite au rez-de-chaussée avant de remonter presto au premier. Mademoiselle Chloé l'attend devant la grille. Elle le salue en souriant. Elle a dû naître avec un sourire aux lèvres. En entrant dans l'ascenseur, elle lui demande comment s'est passée sa journée, ce à quoi il répond « avec ses hauts et ses bas, mademoiselle ».
Comment s'est passée votre journée à vous, jusqu'à présent ?
Mais très bien. J'ai eu le bonheur d'arriver à Bordeaux tôt dans l'après-midi et de revisiter cette ville sublime, qui est quand même une des plus belles villes de France, donc très joyeux.
Merci. Une journée, je ne sais pas si la vôtre a été bonne, en tout cas la soirée va certainement l'être, puisque Marc est venu à la rencontre du public bordelais, ce qui nous fait très plaisir, et merci également à vous d'être venu ici pour le rencontrer. Nous venons d'entendre les toutes premières lignes de votre nouveau roman, Une fille comme elle, et nous vous proposons au cours de cette soirée, à travers quelques extraits qui vont vous être lus, de découvrir les personnages et l'univers de ce livre, et à travers cela, bien sûr, aussi l'univers un peu de Marc Lévy qui est là aujourd'hui, et que l'on ne présente presque plus, puisque vous êtes l'auteur français le plus lu dans le monde. Je crois que vous êtes traduit dans 49 langues, me semble-t-il. Et depuis l'année 2000, votre premier roman, vous en avez écrit 19 en tout. 19 livres, 19 romans différents. Comment faites-vous pour écrire 19 livres différents ? Comment faites-vous pour ne jamais raconter en fait deux fois la même histoire ?
Ce serait beaucoup plus facile en même temps de recopier le précédent. Mais en fait, parce que j'ai toujours eu envie de raconter une autre histoire. L'écriture pour moi a été, comment vous dire, une découverte dans la vie magique, parce que je dirais quand j'étais à l'école, j'étais rêveur et j'étais assez sanctionné pour ça. J'ai fait pas mal d'heures de colle et j'ai eu pas mal de billets envoyés à mes parents sur lesquels il était écrit « élève rêveur », où il était écrit « peut-être un jour reviendra-t-il en classe ». Et ça, bon, j'en ai une collection comme ça. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc il y a une douce revanche. Et en fait, cette envie de rêver et de côtoyer des personnages différents. Et surtout, je crois, d'aller visiter des univers différents a fait que je n'ai jamais voulu enfermer mon écriture dans un seul genre, qui soit celui de la comédie ou celui du policier ou celui du drame ou celui du roman historique. Et donc j'ai alterné en 18 ans comme ça une dizaine de genres, et surtout je crois que je me suis encore plus amusé à écrire des livres, alors ça amuse pas du tout mon éditeur, mais moi ça, mais qui ne soient pas en fait des livres qui entrent vraiment dans un genre, c'est-à-dire des livres où finalement c'est pas l'idée de briser les codes, c'est plutôt l'idée de ne pas s'enfermer dans un code surtout, et de raconter une histoire avec toute la liberté avec laquelle je l'envisage et avec toute la liberté que je cherche dans la vie.
En l'occurrence, pour celui-ci, il s'agit d'une comédie, et pour ceux qui n'auraient pas encore lu, je voudrais juste dire quelques mots sur l'histoire que va nous raconter ce livre. Alors l'histoire se passe à New York, sur la 5e avenue, dans un immeuble assez cossu, qui a une particularité, puisque il y a dans cet immeuble un ascenseur, mais alors c'est pas le vôtre. C'est un ascenseur un peu particulier d'un temps ancien que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui ne peut être manipulé que par un liftier qui connaît la machinerie de cet ascenseur. Et donc cet ascenseur, ce liftier, pardon, connaît évidemment toutes les personnes de cet immeuble et la vie est un long fleuve tranquille jusqu'à ce que le collègue de Deepak, qui est le liftier de jour, ait un accident et ne puisse donc plus exercer sa profession. In extremis, le neveu de Deepak va venir le remplacer pour aider son oncle, mais aussi parce qu'il a croisé un jour le regard de l'habitante du 8e étage qui s'appelle Chloé. Et le regard qu'on porte sur autrui, le regard qu'autrui porte sur nous, et que, par conséquence, parfois, nous rejetons aussi sur nous-mêmes. C'est un peu, je pense, le fil rouge qui est un peu au cœur de votre livre.
Oui, le thème, c'est maintenant qu'on parle de la façon dont le roman est né, ou un petit peu après ? Non, d'accord. Alors, le thème du roman, c'est la différence. Mais pas seulement la différence de l'autre, surtout... notre propre différence. Je crois il me semble que l'on prend conscience de notre différence le premier jour où on entre à l'école, justement. Et en fonction de la nature de cette différence, la façon dont on la vit, dans la façon dont on la ressent, de l'envie que l'on va avoir de la cacher ou au contraire de la montrer, et surtout de la façon dont les autres vont percevoir notre différence et la recevoir et nous la renvoyer, ça va énormément conditionner notre bien-être ou notre mal-être. Et la différence, elle est toujours à mettre en perspective, vous voyez, par rapport aux autres. Que ça soit une différence physique, que ça soit une différence culturelle, que ça soit une différence de milieu social, que ça soit une différence de façon de penser ou de mode de vie, la différence, elle est complètement conditionnée par celle des autres et le fait d'être... en minorité dans notre différence ou en majorité. Il y a il y a un moment dans le roman où la première fois que Sanji voit Chloé, il la regarde parce qu'il est fasciné par elle et son meilleur ami, parce que ça se passe à New York, lui dit mais arrête de la regarder, ça ne se fait pas de regarder une fille comme elle. Et lui dit mais c'est quoi une fille comme elle? Et Sam va lui répondre quelque chose qui pour lui est absolument abscon. Il va lui dire mais une fille qui est assise dans un fauteuil. Mais lui, il arrive d'Inde. Et donc, lui, il dit, mais si tous les Américains qui venaient visiter l'Inde devaient détourner les yeux quand quelqu'un qui a un handicap passe devant eux, ils auraient un torticolis à la fin de la journée. Parce que dans les rues de Mumbai, on est tous un peu éclopés et on s'en fout complètement. C'est pas la question. Et voilà. Et donc, du coup, ne serait-ce que la perception du handicap ou la perception... les premières lignes du roman ouvrent sur la relation qu'on entretient avec la minceur, par exemple, et avec les canons de la beauté sur la minceur qui changent d'un pays à l'autre. Moi, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire hier, la rondeur était synonyme de beauté absolue. Pour ceux qui ont mon âge, Gina Lollobrigida était la plus belle femme du monde. Et Kate Moss, on l'aurait hospitalisée tout de suite. On aurait dit, elle est malade, ça va pas du tout, il faut la mettre en sous-perfusion. Aujourd'hui, c'est une question de perspective. Donc oui, le fil rouge de ce roman, au travers de la comédie, c'est effectivement la différence.
Et des personnages différents, on va en croiser dans ce roman. Et on va partir tout de suite à leur rencontre, en commençant par Sanji, qui est un des personnages principaux que vous avez mentionné. Sanji est un jeune homme qui vit en Inde, à Mumbai, et qui débarque fraîchement à New York dès les premières pages du livre. Et on va vite comprendre qu'il a un lien de parenté avec notre liftier, Deepak, et sa femme, Lali.
Sanji récupéra sa valise sur le tapis roulant, franchit le contrôle des douanes, et marcha vers le point de rendez-vous où attendaient les chauffeurs de limousine. Il repéra son nom sur la pancarte que l'un d'eux tenait en main. Le chauffeur le délesta de son bagage et l'escorta jusqu'à la voiture. La crone noire roulait sur la 495, se faufilant dans la circulation fluide à la nuit naissante. La banquette était moelleuse et Sanji, rompu par un long voyage, eut envie de somnoler. Son chauffeur l'en empêcha en entamant la conversation alors que les tours de Manhattan se dessinaient dans le lointain. « Affaire ou plaisir ?» demanda-t-il. « Les deux ne sont pas incompatibles, » répondit Sanji. « Tunnel ou pont ?» Le chauffeur rappela que Manhattan était une île. Il fallait donc choisir par où l'atteindre. Puis il assura que la vue depuis le Queensboro Bridge valait le court détour. « Vous arrivez d'Inde ?»«
De Mumbai, »
confirma Sanji. « Alors, vous finirez peut-être par devenir chauffeur comme moi. C'est ce que font la plupart des Indiens qui débarquent ici. D'abord les Yellow Cab, Uber pour les plus futés, et pour une petite poignée d'élus, une limousine comme celle-ci. » Sanji regarda le médaillon agrafé sur la boîte à gants. À côté de la photographie du chauffeur était inscrit son nom, Marius Zobonia, et son numéro de licence, 8451. Et il n'y a pas de médecin, d'enseignant ou d'ingénieur polonais à New York ? Marius se gratta le menton.
Pas que je sache.
Après tout, le kiné de ma sœur est slovaque, concéda-t-il. Heureuse nouvelle qui me remplit d'espoir. J'ai horreur de conduire. Le chauffeur en resta là. Sanji sortit son portable de sa poche pour consulter ses messages. Le programme de son séjour à New York s'annonçait chargé. Il était préférable qu'il se débarrassât tout de suite de ses obligations familiales. La tradition exigeait de remercier cette tante qui lui avait si aimablement adressé une lettre de recommandation, d'autant plus aimablement qu'il ne l'avait jamais rencontrée. « Nous sommes loin de Harlem ?» demanda-t-il au chauffeur. « C'est vaste, Harlem. Est ou ouest ?» Sanji déplia la lettre et vérifia l'adresse au dos de l'enveloppe. « Au 225 East, 118e rue. »« Un petit quart d'heure, » annonça le chauffeur. « Très bien, allons-y. Je me rendrai au Plaza après. » La voiture remonta la voie express bordant l'East River, puis la Harlem River, pour finir sa course devant un immeuble en briques rouges des années 70. « Vous êtes sûr que c'est là ?» demanda Marius. « Oui, pourquoi ?»« Parce que Spanish Harlem est le quartier portoricain. »« Ma tante est peut-être une indienne de Porto Rico ?» rétorqua Sanji sur un ton ironique. « Je vous attends ?»« S'il vous plaît, je n'en ai pas pour longtemps. » Par prudence, il récupéra son bagage dans le coffre et avança vers le bâtiment.
Qu'est-ce que ça fait quand on arrive à New York pour la première fois ?
Je crois que tout dépend comment on y arrive et à quel âge et dans quelles circonstances. Moi, je suis arrivé à New York la première fois, j'avais 18 ans. Et j'ai pris un taxi qui était un chauffeur de taxi polonais. Et vous savez, quand vous prenez un taxi à New York, je crois que la phrase qui revient le plus souvent après avoir donné l'adresse, c'est « Vous venez d'où ?» Et question que le chauffeur vous pose et question que vous posez au chauffeur. Et pour une raison simple, c'est qu'à New York, tout le monde vient de quelque part, si je puis dire. C'est une ville de diversité, vraiment, donc c'est un sujet de conversation assez courant. Et je me souviens de lui avoir dit, j'arrivais de France, il m'a demandé pourquoi je venais, et comme beaucoup de gens, je venais pour essayer de faire ma vie là-bas. Et donc je lui ai retourné la question, je lui ai dit, et vous êtes arrivé il y a longtemps, et il m'a dit oui, il y a 25 ans. Et je lui ai dit, alors ça valait le coup. Et il m'a confirmé, il m'a dit oui, ça valait le coup. Et puis il m'a dit, mais... Si, alors vous savez, en anglais, le vous et le tu n'existaient pas, mais je sentais que vu la différence d'âge, l'intonation de voix était plutôt au tutoiement qu'au vouvoiement. Et donc il m'a dit, mais si tu viens avec l'idée de faire comme moi, c'est-à-dire de vivre ici, il m'a dit, méfie-toi quand même. Parce que tu vois, quand on quitte son pays et quand on vient vivre ailleurs, même si on y reste très longtemps, toute sa vie, on vit en étranger. Et il m'a dit, c'est un choix de vie, mais il ne faut pas le faire innocemment. Et en fait, c'est le choix de vie que moi j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vécu à peu près toute ma vie ailleurs que chez moi, et donc en étranger. Alors c'est un choix de vie qui m'a apporté beaucoup, qui a aussi ses manques, parce que c'est plus compliqué de vivre en étranger. Et c'est une école d'humilité quotidienne, parce que ça vous oblige, vous êtes obligé, vous, de faire un pas vers les autres en permanence pour que les autres fassent un pas vers vous. Et vous êtes d'abord obligé d'appréhender la culture des autres avant que les autres aient envie de comprendre un peu de votre culture. Et en même temps, c'est une vie qui a aussi ses côtés absolument magiques, puisque chaque pas que vous faites au quotidien est une découverte. Et si vous appréhendez, si vous appréciez la différence de l'autre et la culture de l'autre, chaque chose que vous faites est un enrichissement, chaque chose que vous entendez est un enrichissement. Mais voilà, donc c'est vrai que cette scène n'est pas sans relation avec ma première arrivée à New York. Mais en fait, ce que cette scène raconte surtout, sont tous les a priori. C'est-à-dire que pour ce chauffeur qui est lui-même un immigré polonais, et bien qu'il soit un immigré polonais, le fait que Sanji arrive de Mumbai fait que lui aussi va être forcément chauffeur de taxi, puisqu'il y a beaucoup de chauffeurs de taxi indiens. Alors qu'en réalité, dans le roman, Sanji est un multimillionnaire qui a une fortune considérable à Mumbai. D'abord, il est l'héritier d'un palace, et ensuite, il a créé le Facebook indien. Donc, il est très, très loin de... Il est très, très loin de ce qu'imagine le chauffeur. Et ça va rester son secret à lui pendant toute une partie de l'histoire. Et surtout, quand il va embaucher ce costume de liftier de nuit dans cet immeuble de la 12e avenue, où les propriétaires ne voient évidemment sous son costume de liftier qu'un homme qui est liftier, alors qu'en réalité, il pourrait acheter tous les appartements de l'immeuble et le trottoir. Et il va se servir de ce quiproquo, parce que c'est pour lui, finalement, l'occasion de partir à la rencontre de la différence des autres, libéré du prisme de sa propre réussite, et ça va être pour lui un voyage absolument passionnant, enfin palpitant pour lui.
Et donc Sanji, dont on vient de parler, est en fait le neveu de Deepak, donc le liftier de jour. De Lali, donc par alliance de Deepak. Et Deepak joue un rôle central dans le livre, alors central au sens propre comme au sens figuré, parce que pour tous les habitants de cet immeuble, c'est lui, en fait, le chef d'orchestre de leur vie, de leur organisation dans l'immeuble. Et donc, on ne choisit pas ses voisins, mais ceux-là ont en tout cas tous en commun de souhaiter la présence de Deepak à leur côté.
Oui, parce que juste pour préciser ce que vous avez dit, il reste à New York 53 ascenseurs du modèle de celui qui est dans le roman. Et ces ascenseurs ont une particularité, ce sont des ascenseurs qui n'ont pas de bouton, ils sont manœuvrés par une manivelle, et exclusivement par une manivelle. Et donc les occupants de l'immeuble n'ont pas le droit de se servir de l'ascenseur sans la présence de ce liftier. Et il en reste qu'il y a 63 000 et quelques cabines d'ascenseur à New York. Je suis allé me renseigner auprès du syndicat. C'est comme ça que j'ai obtenu ce chiffre. Et donc, voilà. Et donc il en reste 53. Donc c'est tout un mode de vie, parce que dans cet immeuble, chaque fois qu'un occupant de l'immeuble veut prendre l'ascenseur, chaque fois que des visiteurs viennent leur rendre visite à un occupant, on passe par le liftier. Et donc, le liftier sait tout de la vie des occupants de cet immeuble, et pas sur une année, puisque ça fait 40 ans qu'il travaille dans cet immeuble. Donc, il a suivi toute la vie des occupants de cet immeuble. Et il est la colonne vertébrale du roman.
Le numéro 12, 5e avenue, est un immeuble en pierre de taille de 8 étages qui compte un appartement chacun, sauf au premier, où se trouvent deux bureaux. À raison d'une moyenne de 5 allers-retours par étage et par jour, la hauteur des paliers étant scalée, Deepak parcourt 594 km par an. Depuis le début de sa carrière, il en a effectué 22 572. Deepak conserve précieusement un petit carnet dans la poche intérieure de sa redingote où il comptabilise ses voyages à la verticale, comme le font les aviateurs avec leurs heures de vol. Dans un an, 5 mois et 3 semaines, il aura parcouru 23 448 km, soit exactement 3000 fois la hauteur du Nanda Devi, un exploit et le rêve de toute une vie. La déesse de la joie étant, comme chacun le sait, la plus haute montagne complètement contenue en territoire indien. Entièrement manuel, L'ascenseur de Deepak est une antiquité. Il n'en subsiste d'ailleurs plus que 53 dans tout New York à être actionné par une manette. Mais pour ceux qui vivent dans cet immeuble, il est le vestige de tout un art de vivre. Deepak est dépositaire d'un savoir-faire en voie d'extinction et il ne sait pas si cet état de fait l'attriste ou l'enorgueillit. Tous les matins à 6h15, Deepak entre au numéro 12, 5e avenue, par la porte de service. Il emprunte les marches qui mènent au sous-sol et se dirige vers son placard dans la remise. Il suspend ses pantalons trop grands et ses tricots aux couleurs passées et enfile une chemise blanche, un pantalon de flanelle et une redingote dont le plastron arbore fièrement en broderie dorée l'adresse de son lieu de travail. Il lisse ses cheveux fins en arrière et pose une casquette sur son crâne. Puis il jette un coup d'œil dans le petit miroir accroché à la porte du Kajibi et monte prendre la relève de Monsieur Rivera. La demi-heure suivante, il astique sa cabine. D'abord le bois verni avec un chiffon doux et de l'encaustique, puis la manette en cuivre. Monter à bord de son ascenseur, c'est faire un court voyage dans une voiture de l'Orient Express où, si l'on relève la tête pour admirer la fresque Renaissance qui orne le plafond, grimper au ciel dans le cercueil d'un roi. Un ascenseur moderne coûterait bien moins cher à la copropriété, mais comment quantifier la valeur d'un bonjour, d'une écoute attentive ? Comment estimer la patience de celui qui règle avec délicatesse les conflits de voisinage ? L'importance de celui qui éclaire vos matins d'une parole aimable, vous renseigne sur le temps qu'il fait, vous gratifie d'une pensée le jour de votre anniversaire, veille sur votre appartement quand vous êtes en voyage, vous rassure de sa présence quand vous rentrez seul pour affronter la nuit. Liftier est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. Les halls témoignent de l'histoire d'un immeuble, de celle des occupants, de cet étrange voisinage de gens qui se connaissent à peine. Les grands moments de leur vie parcourent les cages d'escalier, naissance, mariage, divorce, décès. Mais les murs épais des demeures bourgeoises ne laissent rien filtrer de leur intimité. Le hall où Sanji venait de pénétrer était panoté de boiseries en chêne. Un grand lustre, des appliques en cristal, éclairait un luxe précieux, miroitant sur le sol en marbre avec sa rosace centrale en étoile dont les branches filaient vers les points cardinaux. Rien n'avait été laissé au hasard pour préserver le cachet original. Sur le comptoir de la réception trônait un téléphone en bakélite surgi d'une autre époque. Jadis, on s'en servait pour appeler le concierge, mais il ne grelottait plus depuis longtemps. Un cahier noir, dont les pages se remplissaient paresseusement des noms des visiteurs, était grand ouvert. Et derrière ce comptoir, Deepak somnolait. Le déclic de la porte cochère n'y changea rien. Sanji tout sauta et Deepak sursauta. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il poliment en rajustant ses lunettes. Lorsqu'il y vit clair, sa mine se fronça. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu voir cet endroit dont ma tante m'a dit le plus grand bien. »« Tu n'es jamais rentré dans un immeuble ? Tu vis dans le slum de Dharavi ?»« Je voulais découvrir le fameux ascenseur dont Lali t'a aussi parlé, je suppose. » Il paraît qu'il est magnifique et qu'il faut être un expert pour le piloter. « C'est vrai, » répondit-il, cédant à la flatterie. Deepak se retourna pour vérifier qu'ils étaient seuls. Il s'empara de sa casquette et la posa sur son crâne. Sanji reconnut que dans ce bel uniforme, son oncle par alliance avait l'allure d'un commandant de bord. « Bon, » grommela-t-il. À cette heure-ci, personne n'appelle. Alors suis-moi, nous allons faire un tour. Mais discrètement, c'est bien compris ? Sanji acquiesça. Il avait l'impression d'avoir été autorisé à visiter un musée après la fermeture. Deepak fit coulisser la grille de l'ascenseur et pria son neveu d'entrer dans la cabine. Main sur la manette, il attendit quelques instants comme pour donner un peu plus de solennité au court voyage qu'ils allaient entreprendre. « Écoute, dit-il, chaque bruit a son importance. » Sanji distingua un crépitement électrique, puis le ronronnement du moteur qui s'éveillait, et la cabine s'éleva lentement dans un souffle aérien. « Tu vois, ajouta Deepak, il joue une partition, une note différente à chaque entrepalier. Je les reconnais les yeux fermés. Elle m'indique où je me trouve, à quelle seconde je devrais abaisser ce levier pour poser la cabine en douceur. » L'ascenseur s'arrêta au cinquième. Deepak, immobile, guettait un témoignage d'admiration. Il semblait y accorder tant d'importance que Sanji prit un air impressionné. La descente est encore plus belle et demande beaucoup de doigté à cause du contrepoids qui est plus lourd que nous. Tu comprends ?
Alors comment est née cette idée très originale de l'ascenseur et cette idée, cette envie de faire cohabiter comme ça tous ces gens autour de cette même colonne vertébrale, comme vous l'avez dit ?
En fait, le roman ne naît jamais d'une seule idée. Il naît de la rencontre de plusieurs idées et de plusieurs petites choses. D'ailleurs, c'est toujours assez difficile. J'arrive jamais à me souvenir du moment ou de quelle idée a été la source de l'histoire. Pour être très franc, d'abord, j'avais envie d'écrire une comédie parce que ça faisait quelques années que j'en avais pas écrit et J'avais une scène en tête qui n'a rien à voir avec l'ascenseur, qui était très ancrée. Je savais que j'avais envie d'écrire une histoire autour de cette scène, qui est celle d'un homme qui reçoit un coup de téléphone au milieu de la nuit et une femme lui dit « Je me suis trompé sur tout. Je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé sur moi. Je me suis trompé sur nous. Je me suis trompé sur ma vie, sur ce que je voulais en faire, sur mon métier. Et j'ai décidé que c'en était terminé. Je veux plus me tromper. » Donc, je te donne rendez-vous demain à 15h au parc et je te rendrai tes affaires et nous en resterons là. Et elle raccroche et le type se dit, je ne pouvais pas lui dire que c'était aussi trompé de numéro de téléphone. Et j'avais vraiment ça en tête et je me disais, ça va être le départ d'une histoire. Et donc, je réfléchissais depuis très longtemps à la façon de démarrer l'histoire là-dessus. Bon, donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que je suis moi-même rentré un soir dans un de ces ascenseurs. Enfin, dans l'un, j'ai eu la chance, en allant dîner chez des gens à New York, d'entrer dans un immeuble et d'être dans une de ces 53 dernières cabines d'ascenseur, qui était d'ailleurs dans cet immeuble-là un peu plus grande que celle que je ne décris dans le roman. Et il y a une chose qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'on devait être à peu près 8 dans cette cabine d'ascenseur, et allant d'ailleurs sans se connaître au même dîner. Et donc, il y avait ce liftier dans l'ascenseur qui se tenait dos à nous puisqu'il était face à sa manette et qui manœuvrait son ascenseur. Et j'ai remarqué que les gens dans l'ascenseur parlaient comme s'il n'était pas là. Et donc, vous voyez, menaient leur conversation comme s'il n'était pas là. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que cet homme voit tout, il entend tout, et lui, personne ne le voit. Et comme j'ai un amour profond des métiers, et que l'un... je dirais, des autres fils rouges de ce roman, c'est celui du lien social que représentent les métiers. C'est-à-dire on s'interroge souvent sur qu'est-ce qui fait la société. Et ça fait très longtemps que, je dirais, quand on lit la presse, on pourrait croire que ce qui constitue la société, c'est la politique et l'économie. Et moi, je ne crois pas à ça du tout. D'abord parce que j'ai 56 ans et que depuis que je m'intéresse à l'actualité, je vois le contraire. Mais il y a une chose dont je suis beaucoup plus convaincu, c'est que le vrai lien de la société, ce sont les métiers. Ce qui nous lie entre nous, ce sont les métiers. Parce que finalement, ce qui nous rend dépendants les uns des autres, ce sont les métiers. Si le boulanger ne se lève pas le matin, on n'a pas de pain. Et vous pouvez prendre l'écrivain qui se croit être le plus grand écrivain du monde. Quand il est malade, dans les mains de l'infirmière qu'il soigne, il est tout petit. Et donc, je crois beaucoup à ça. Vous voyez, quand vous allez voir quelqu'un que vous aimez à l'hôpital, on s'adresse au médecin, alors que paradoxalement, c'est l'infirmière qui s'occupe de votre parent toute la journée. Et la société, pour moi, elle est composée comme ça de toute une série de métiers. Alors, pourquoi est-ce que la société donne, accorde plus d'importance à un métier qu'à un autre ? Ça reste un mystère pour moi. Et vous voyez, par exemple, l'écriture en France, c'est très sacralisé. Et moi, je ne me suis jamais senti détenteur d'un métier plus important que le métier de mon voisin. Très souvent, dans les rencontres, on me dit « Mais comment vous faites pour écrire un livre par an ?» Et moi, je réponds toujours ce que je pense. Moi, je me demande comment le boulanger fait pour faire du pain tous les jours. Et donc, je n'ai pas l'impression que je bosse énormément en écrivant un roman par an. Et, ne serait-ce que par rapport à l'infirmière que je citais et qui va s'occuper de 12 malades par jour, 300 jours par an. Voilà, donc je crois énormément à ce lien. Et donc, il y a une chose qui est très importante dans le roman, dans l'histoire, c'est que, c'est que les personnages principaux de l'histoire existent et sont reliés aux autres au travers de leur métier. Donc, c'était une deuxième envie. L'envie, c'était de dire, la colonne vertébrale, ça va être un homme qui est détenteur d'un métier, qui lui-même est en voie de disparition, parce que cet homme, dans ce liftier que j'ai rencontré dans cette cabine d'ascenseur, je me suis dit, mais en fait, ce type, c'est un passeur. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il était presque aussi vieux que l'immeuble. Et, et c'est là que j'ai compris. Je me dis, mais il connaît toute la vie des habitants de cet immeuble. Il les a vus naître, pour certains. Il les a vus se marier, il les a vus divorcer, il les a vus s'engueuler, il les a vus s'aimer. Il a dû assister à des scènes d'engueulade et de réconciliation. Il doit savoir s'il y a des tromperies. Enfin, je veux dire, ce type, c'est un curé. C'est un confessionnal, son ascenseur. C'est incroyable. Et c'est comme ça que voilà, cette idée m'est venue de me dire je pourrais me servir de cet homme et de ce rapport incroyable qu'il a avec les autres personnages du roman pour en faire la colonne vertébrale du roman.
Et tout en haut de cet immeuble, donc au 8e étage, se trouve une jeune femme qui s'appelle Chloé, qui est un personnage féminin aussi très fort. Et le lecteur, au début des pages, va vite découvrir que Chloé se déplace en fauteuil roulant. Et dans le roman, on découvre, entremêlé au roman, des bribes de son journal qui vont nous aider à mieux la comprendre.
Le jour où je suis rentrée à la maison. En descendant du train à Penn Station, j'ai renoncé au métro. Ce métro new-yorkais que j'avais tant chéri en débarquant de mon Connecticut me fichait maintenant une peur bleue. Les rames sont toujours bondées et je craignais d'étouffer dans la foule. Je dois apprendre à vivre à une autre altitude. Mon horizon est désormais fixé sur le torse des gens qui circulent autour de moi. Comment leur en vouloir de me bousculer ? Étrangement, ceux qui ont les yeux rivés sur leur portable sont les moins dangereux. Ils marchent tête baissée et j'apparais dans leur champ de vision. Deepak m'attendait sur le trottoir. Fidèle à lui-même, il a ouvert la portière du taxi. Même son « Bonjour, mademoiselle Chloé » ne dérogeait pas à ses habitudes. Papa m'a tendu ma planchette. Il est allé récupérer le fauteuil dans le coffre et, après l'avoir déplié, l'a approché de moi du mieux qu'il le pouvait. J'ai effectué ma petite glissade sous le regard impassible de Deepak qui faisait comme si tout cela était normal. « Ils sont heureux de vous savoir rentrer à la maison », a murmuré Deepak. Je n'ai pas tout de suite compris, mais quand il a relevé la tête, j'ai suivi son regard. Mes voisins étaient à leur fenêtre. Les Williams, les Claire, les Eldoff, M. Grumlat et même M. Morrison. Madame Collins m'attendait dans le hall, toujours aussi joyeuse. Elle m'a prise dans ses bras et m'a embrassée. Papa voulait monter éclairer l'appartement avant mon arrivée. Deepak l'a conduit et Madame Collins a proposé de rester avec moi. Elle était silencieuse. Mais quand nous avons entendu l'ascenseur redescendre, elle m'a soufflé dans le creux de l'oreille que j'étais sacrément belle, comme un secret qui devait rester entre nous. Et elle avait l'air si sincère que je l'ai cru. Deepak a grippé mes poignets. Fallait que je m'habitue à cette idée. Je n'avais plus de pieds maintenant. J'avais des poignets. Je suis sortie de l'ascenseur. Deepak m'a saluée Et la dignité de son regard m'a fait comprendre que j'étais une femme à part entière. Plus personne ne toucherait au poignet de mon fauteuil. Avant 14h50, me prendre par la main n'était pas anodin. Seuls Julius et mon père pouvaient le faire. Le jour où j'ai repris le métro. Les taxis me coûtaient une fortune. Je ne peux monter que dans ceux équipés d'une porte latérale et d'une rampe. Avec les autres, hélas majoritaires, les chauffeurs doivent abandonner leur volant, charger mon fauteuil dans leur coffre et se retaper strinlin-lin à l'arrivée. Nombreux sont ceux à m'ignorer quand j'agite le bras. Certains ont même la délicatesse d'accélérer, à croire qu'ils ont peur que je m'accroche à leur pare-choc. Je me suis engouffrée dans le métro, repensant à l'euphorie de mes premiers trajets en débarquant à New York. Il faut avoir l'odorat solide pour emprunter les ascenseurs, et leur mouvement est si lent qu'on croit descendre dans un caveau. J'avais évité les heures de pointe et en montant dans la rame à la station Washington Square, tout s'est bien passé. J'avais serré mes freins pour que ceux de la motrice ne m'envoient pas valdinguer contre les portières. La rame était presque vide. Les passagers, les yeux rivés sur leur portable, ne me prêtaient aucune attention. Cela s'est compliqué à Penn Station. La foule a envahi la rame, les sièges ont été pris d'assaut. Je gênais. Mon fauteuil occupait trop de place et les passagers obligés de rester debout se sont massés autour de moi. Pans de veste, bas de chemise, boucles de ceinture, attaché-case et sac à main constituaient une muraille qui ne cessait de se resserrer. Soudain, j'ai senti l'air me manquer. La rame avançait vite. Dans un virage, un homme de forte corpulence m'a bousculé, s'est rattrapé de justesse en râlant. Un autre, aussi aimable, a manqué de s'asseoir sur mes genoux. J'étouffais. J'ai paniqué et je me suis mise à crier. Les gens ont peur dans les grandes villes. Je suis bien placée pour savoir pourquoi. Et quand une femme hurle dans une rame bondée, l'effet est immédiat. Il y a eu une bousculade et j'ai eu honte en voyant une petite fille terrifiée que sa mère soulevait dans ses bras pour qu'elle ne soit pas piétinée. Et puis, un homme a ordonné à tout le monde de se calmer. Le vide s'était fait autour de moi. Je devais avoir l'air d'une folle. J'étais en sueur. Je haletais, peinant à retrouver une respiration normale. Les gens me dévisageaient, les yeux mêlés de crainte et de dégoût. Une femme a forcé le passage. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit de respirer lentement, que je n'avais rien à craindre et que tout irait bien. Elle m'a pris la main et m'a massé les doigts. « Je sais, » m'a-t-elle murmuré, « ma sœur est en fauteuil. Ça lui est arrivé plein de fois. C'est tout à fait normal. » Je ne voyais rien de normal à m'être donné en spectacle, à m'être laissé aller à uriner sous moi dans le métro, à avoir effrayé une petite fille qui tremblait encore, à subir ses regards et à l'idée que ça m'arriverait plein de fois. Même la bienveillance de cette femme n'était pas normale. Mon cœur s'est apaisé. J'ai fini par retrouver mon calme. Les visages se sont détournés. J'ai remercié ma protectrice, l'ai assuré que ça allait mieux. Mais quand le métro s'est enfin arrêté, elle a tenu à m'accompagner sur le quai. Elle n'avait pas menti au sujet de sa sœur. Elle n'a pas essayé de manœuvrer mon fauteuil. Elle m'a juste guidée vers un chef de station. J'ai refusé qu'il appelle les secours. Je voulais rentrer chez moi. Quand papa est revenu de l'université, il m'a demandé ce que j'avais fait de beau dans la journée. Je lui ai répondu que j'avais pris le métro. Il a trouvé ça formidable et m'a félicité.
Alors, comment est né ce très beau personnage de Chloé ?
Je ne sais pas vous répondre à cette question. Parce qu'en fait, sur 19 romans, je ne me suis jamais posé la question de comment était né un personnage qui avait ses deux jambes. Et donc, je ne me suis pas plus posé la question au sujet d'un personnage qui avait perdu ses deux jambes. Et elle est venue comme ça, comme un autre personnage. C'était elle. Elle est née, voilà. Elle est née dans mon esprit et elle existait. C'était dans ce roman qui parle de la différence. Elle était une des différences que j'ai côtoyées dans ma vie, que j'ai côtoyées de très près dans la vie. Et j'avais des choses à dire sur la différence. Parce que finalement, parler de la différence, ça n'est pas que parler de sa différence. C'est aussi, vous voyez, quand vous passez toute votre vie, je dirais, à embrasser la différence des autres, à l'aimer, à l'apprécier, à l'étudier, enfin à l'écouter, il y a un moment où il faut aussi qu'elle nourrisse l'écriture, et il faut aussi la raconter, parce que c'est le moyen de la partager. Donc elle est née comme ça. Comment vous dire, le parcours de Chloé, c'est le parcours d'une femme qui a décidé qu'elle serait une femme à part entière. Et que personne ne l'empêcherait d'être une femme à part entière, et certainement pas le regard des autres. Les passages de son journal, qui racontent en fait sa déconstruction et sa reconstruction, ils étaient importants pour moi parce qu'il ne fallait pas non plus que dans la force de caractère qu'exprime Chloé, vous voyez, dans tout ce rayonnement, parce que c'est une femme extrêmement rayonnante dans le livre, il fallait pas, et surtout quand vous le racontez dans une comédie, parce que bon, évidemment, là, les deux passages qu'on vient d'entendre ne sont pas d'une gaieté folle, mais il fallait pas non plus que ça laisse entendre que se déplacer en fauteuil était aussi facile que se déplacer sur ses deux jambes. Ce qui était important, c'est qu'on entende que c'est aussi digne, aussi humain, et que c'est pareil. C'est-à-dire qu'être assis en fauteuil ou marcher sur ses jambes, ça reste un être humain à part entière. Après, la difficulté n'est pas la même. Et donc, c'était très important de raconter, vous voyez, je dirais, la reconstruction et la façon dont Chloé va arriver à ce constat-là. Elle est née parce que moi j'étais comme tous mes personnages. Elle est née parce que j'étais amoureux d'elle tout de suite. Vous voyez, à son premier coup de gueule, à sa première contradiction, et Dieu sait qu'elle est bourrée de contradictions, à ses premières hésitations. Il y a une scène dans le roman, vous voyez, où Sanji et Chloé se promènent sur la High Line, qui est une coulée verte à New York. Et alors, Chloé dit à Sanji, vous voyez les gens qui sont là-bas et qui nous regardent, c'est pas moi qui regarde, c'est mon fauteuil. Et Sanji lui dit, mais qu'est-ce que vous pouvez être prétentieuse? Alors, elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Et elle dit, je vois pas pourquoi je suis prétentieuse. Et lui dit, mais pourquoi vous croyez que c'est toujours vous qu'on regarde? Vous voyez, les gens qui sont là-bas, ils nous regardent parce que moi, je suis indien. Et comme j'ai la peau mate, ils sont en train de se demander si je suis votre ami ou votre domestique. Et c'est une phrase qui peut paraître anodine et qui va complètement changer la vie de Chloé. Parce que c'est la phrase qui va lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui est porteur d'une différence, qui peut être une souffrance aussi importante que la sienne. Parce que tout à coup, c'est finalement... être indien, c'est pas une souffrance. Oui, bon, évidemment. Mais le racisme en étude, le racisme qu'on peut subir en étude... Les préjugés, les préjugés sont une souffrance. Et tout à coup, Chloé, elle se dit, mais finalement, il a peut-être raison. C'est peut-être pas bon fauteuil qu'on regarde, c'est lui. Et ça, pour elle, c'est un moment de libération qui était très important. Alors la scène, vous verrez, si vous lisez le livre, vous verrez que la scène, en fait, c'est une scène de comédie. C'est pas du tout une scène dramatique, oui, ou d'une intensité dramatique. Mais c'est par ces petites touches-là que j'avais envie, justement, de raconter la différence. Mais Chloé, elle est née avec la même spontanéité. Vous savez, dans un de mes romans, qui est Le voleur d'ombre, l'héroïne du roman est sourde et muette. Mais pour moi, c'était une héroïne à part entière. Quoi. C'est une des... Je me suis... Il n'y a pas de différence notable. Donc je trouve que C'est ça les couleurs de la vie et les couleurs de l'écriture.
Et toutes ces, le récit de ces différences se fait à New York, qui est aussi un personnage à part entière dans votre livre. On y découvre ses quartiers, on y découvre ses immeubles, la musique qui se joue dans les parcs et dans les rues. C'est un roman qui est aussi un hymne à New York, qui est peut-être la ville de tous les possibles.
Sanji admirait l'élégance avec laquelle Deepak maniait sa batte, entouré d'une ribambelle d'adolescents venus des quartiers nord de la ville, rêvant de devenir des champions. Je comprends que tu aies cédé à son charme quand tu allais le voir jouer au parc de Shivaji. Il est beaucoup plus beau aujourd'hui, répondit Lali. Pour certains, Deepak n'est qu'un liftier, mais sur un terrain de cricket, c'est un vrai seigneur. Ça n'a pas dû être facile de partir. Partir a été le plus facile. Un soir, alors que Deepak sortait de chez lui, trois malabars lui sont tombés dessous et l'ont roué de coups. Nous savions qui étaient les commanditaires et nous avons saisi le message que mes parents nous avaient adressé. Quand je suis allée lui rendre visite au dispensaire, il a tout fait pour me convaincre de mettre fin à notre relation. Son amour pour moi serait éternel, mais nous ne pouvions pas envisager d'avenir ensemble. Il n'avait pas le droit d'entacher la réputation d'une famille comme la nôtre, et encore moins de gâcher ma vie. J'ai mis ce moment d'égarement sur le compte de ses blessures, et lui ai répondu que ce serait la dernière fois que je tolérerais que l'on décide de ma vie. J'avais choisi de la passer à ses côtés et ne laisserai derrière moi aucun regret. Ma famille n'existait plus. Je n'avais rien de commun avec des gens capables d'une telle violence. Pendant 2 mois, jour après jour, j'ai glissé des affaires dans un baluchon de linge sale caché au fond d'une armoire afin que nos servantes ne se rendent compte de rien. Et sous mon lit, le peu d'argent que j'avais réussi à chaparder dans le sac de ma mère et dans les poches des pantalons que mon père laissait traîner. J'en avais aussi chipé à mes frères. Deepak est venu me chercher au beau milieu d'une nuit. Il m'attendait non loin de chez nous et m'avait dit qu'il comprendrait que je ne vienne pas. Je me suis sauvée en douce. Tu ne peux pas imaginer ma peur en me faufilant dans le couloir pendant que la maison dormait, en descendant l'escalier, en refermant la porte pour ne jamais revenir. Il m'arrive encore d'en rêver et je me réveille tremblotante. Nous avons fui à pied. Nous menions une course contre la montre, car nous devions arriver au port avant la levée du jour. Un conducteur de rickshaw a eu pitié de nous et a accepté de nous emmener. Deepak avait acheté à prix d'or 2 places à bord d'un cargo. Nous avons passé 42 jours en mer. J'ai aidé aux cuisines, Deepak prêtait main forte à l'équipage et il était de toutes les corvées. Mais quel voyage! Mer d'Arabie, mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée, le détroit de Gibraltar et enfin... C'est en voyant l'océan que nous avons vraiment embrassé notre liberté. Pourquoi seulement là? La traversée n'en était pas à ses débuts. Parce que c'est au cours d'une nuit à Gibraltar où le cargo faisait escale que nous nous sommes aimés pour la première fois. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, ce que je viens de te raconter fut la partie la plus facile de notre évasion. Je refusais d'être une clandestine. Deepak était trop intègre pour supporter longtemps de vivre dans l'illégalité. Je ne te cache pas que son excès d'honnêteté m'a parfois tapé sur les nerfs. Nous nous sommes présentés au service de l'immigration. À l'époque, les gens qui gouvernaient cette nation d'immigrés se souvenaient encore de l'histoire de leur père et d'où chacun venait. Être menacé de mort nous permettait d'obtenir un statut de réfugié. Les cicatrices de Deepak témoignaient de notre bonne foi. On nous a remis des papiers provisoires et, à notre grande surprise, un peu d'argent pour subvenir à nos besoins et commencer une nouvelle existence. Deepak ne voulait pas le prendre, rit Lali de bon cœur, et je m'en suis chargée pour lui.
Alors New York, pour beaucoup, c'est vraiment la ville de tous les possibles, mais c'est aussi et surtout vraiment un symbole de la diversité. Pourquoi, selon vous ?
Et en fait, parce que c'est lié à l'histoire de New York. Là, je vais vous faire une réponse très brève. Je crois que New York est l'une des très rares villes du monde qui a été constituée par l'arrivée, dans un délai assez rapproché, d'une quantité de réfugiés. Je sais qu'on les appelle les migrants, mais enfin de réfugiés. C'est-à-dire de gens qui fuyaient l'Europe, qui fuyaient la persécution religieuse, qui fuyaient les persécutions familiales, qui fuyaient la misère, qui fuyaient... Et donc, sont arrivés, je dirais, sur une période de temps assez courte, finalement, les Italiens, les Polonais, les Tchèques, les Russes, enfin bref, etc., etc., la liste est longue. Et donc, cette île et sa périphérie s'est constituée par une agrégation de communautés. Alors, je ne dis pas que ça a été tout le temps une partie de plaisir et qu'il n'y a pas eu des rivalités entre les communautés, mais personne ne pouvait dire à l'autre « vous êtes ici chez moi ». Et comme il n'y avait pas cette antériorité... eh bien, finalement, les communautés ont été toutes contraintes ou entraînées à, non seulement à cohabiter, mais à construire ensemble. Et de cette cohabitation d'un certain nombre de communautés, assez important d'ailleurs, puisque sur Manhattan, à New York, il y a 330 communautés ethniques différentes, eh bien, tout ça, tous ces gens ont bien eu à un moment donné l'envie de se fédérer entre eux, avec de créer un lien commun. Et le lien commun, ça a été l'identité new-yorkaise. C'est un petit peu comme si, tout à coup, vous prenez des gens qui sont tous propriétaires d'une couleur et qui vont se décider à tisser une couverture ensemble, ça va donner un patchwork. Mais c'est quand même une couverture. Là où dans d'autres sociétés, vous avez la même couverture qui se tisse, mais les gens qui étaient là les premiers, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois, vont commencer à prendre peur en se disant « mais attention, nous, notre couverture, elle était bleue, et là maintenant, elle change complètement de couleur, on a peur que le bleu ne reste plus majoritaire ». Donc ça, c'est le problème c'est le problème de l'intégration et de l'assimilation et du partage d'autres cultures et de la diversité culturelle, et notamment de la mondialisation, l'intégration de cultures différentes au sein d'une culture préexistante et dominante. À New York, ce ne fut pas le cas pour les raisons historiques que je viens de développer, et c'est probablement pourquoi cette ville est et reste toujours, même dans l'Amérique d'aujourd'hui, qui est une Amérique très dure, un laboratoire du vivre ensemble. C'est-à-dire que vivre ensemble, je dirais, construire ensemble quand on est d'horizons et de cultures différentes est possible. New York en est la preuve. Mais cette expérience a été possible parce que justement aucune culture ne prédominait à l'arrivée des autres cultures. Donc c'est la ville de la diversité, absolument, oui. Et c'est une ville où c'est la seule ville où moi, par exemple, ça fait 20 ans que je vis dans des pays anglo-saxons, et quand je monte dans un taxi, ils continuent à me demander d'où je viens, et à mon grand désespoir. Mais donc, c'est une ville où vous pouvez dire avec un accent, quel que soit votre accent, que vous êtes new-yorkais, et c'est une réalité.
Et dans cette ville où tout le monde est différent, il y a des gens très différents qui s'aiment. Et c'est vrai que dans ce livre, on trouve plusieurs formes d'amour. Il y a donc l'amour naissant entre Sanji et Chloé, comme vous l'aurez compris. On a aussi l'histoire d'un amour qui a duré toute une vie et qui se poursuit encore. Et puis une troisième histoire d'amour qui permet à deux personnes tourmentées de garder pied et foi en la vie. Et en fait, qu'importe les personnages, l'amour devient quelque chose qui transforme des destins et qui nous permet à chacun de nous projeter dans une ou dans plusieurs de ces histoires.
Sanji ressortit du métro à la station de la 4e rue, en retard à son rendez-vous. En longeant les grilles du Washington Square Park, il entendit une mélodie. Au lieu de contourner le parc, il le traversa, avançant tel un enfant suivant le joueur de flûte de Hamelin. Au milieu d'une allée jouait une trompettiste. ses notes s'élevaient entre les branches des tilleuls d'Amérique, des érables de Norvège, des ormes chinois et des catalpas du Nord. Une vingtaine de promeneurs formaient un attroupement autour du musicien. Envoûté, Sanji s'approcha et s'installa sur un banc. Ce sera notre morceau, il ne faudra pas l'oublier, chuchota une jeune femme assise près de lui. Surpris, il tourna la tête. Il y a toujours un air qui marque le moment d'une rencontre, enchaîna-t-elle enjouée. Elle était resplendissante. Je plaisantais, vous aviez l'air si absorbé que vous en étiez touchant. Mon père jouait divinement bien de la clarinette. Petite fleur était son air préféré. Ce morceau a bercé toute mon enfance. Le mal du pays ? Bon, je crois que ça va encore. Je ne suis pas là depuis longtemps. Vous venez de loin ? De Spanish Harlem, à une demi-heure d'ici. Touchez, nous sommes quittes, répondit-elle amusée. J'arrive de Mumbai. Et vous ? Du coin de cette avenue. Vous venez souvent dans ce parc ? Presque tous les matins. Alors j'aurai peut-être le plaisir de vous revoir, je dois filer. Vous avez un prénom ? Demanda-t-elle. Oui. Enchantée, oui. Moi, c'est Chloé. Sanji sourit, la salua de la main et s'éloigna. Comment avez-vous trouvé le courage de fuir l'Inde ? Tu formules mal ta question. C'est la peur qui fait fuir les gens. Le courage, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant, à embrasser une autre vie. Le courage, c'est d'espérer. Mais tu as quand même dû renoncer à tout. Certainement pas à l'essentiel. D'ailleurs, je n'ai pas fui. Je suis partie avec Deepak. J'espère que tu saisis la nuance. Quand as-tu su qu'il était l'homme de ta vie ? Un autre sourire illumina le visage de Lali, malicieux cette fois. Comment s'appelle-t-elle ? Oh, je t'en prie, pas avec moi. Quand on pose ce genre de questions, c'est que quelque chose vous tiraille par là, dit-elle en appuyant son index sur le torse de Sanji. Elle vit à Mumbai ? Bien sûr que non, enchaîna-t-elle aussitôt. Sinon, tu n'interrogerais pas ta vieille tante. Sanji resta muet. À ce point ? Reprit Lali. Que veux-tu que je te dise ? Quand on sait, on sait. On peut invoquer toutes les raisons du monde, surtout les mauvaises, se mettre des œillères pour ne pas voir l'évidence, mais en vérité, le seul choix que nous ayons est de saisir notre chance ou de la laisser filer. Si je n'avais pas suivi Deepak, j'aurais passé ma vie à lui en vouloir. Tu n'as jamais eu peur de votre différence. Je vais te donner un bon conseil. Si tu te retrouves dans un endroit où tout le monde te ressemble, déguerpis aussi vite que tu le peux. D'ailleurs, vu l'heure qu'il est, si tu ne veux pas que Deepak t'accueille fraîchement, tu ferais bien de ne pas traîner. Sanji regarda la pendule de la cuisine et bondit vers la salle de bain. Il n'arriva en retard que d'une demi-heure au numéro 12, 5e avenue.
Alors effectivement, vous parlez d'amour, mais c'est vous parlez d'amour à travers une comédie. C'est vrai que la comédie, c'est quand même un genre. Vous y revenez régulièrement dans toute votre bibliographie. C'est un genre qui vous est cher. Et pourquoi vous avez choisi d'écrire une comédie pour celui-ci ?
Mais en fait, parce que la comédie, ça permet de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été très marqué par des comédies. Il y a des comédies qui ont vraiment marqué ma vie. Et qui ont apporté beaucoup de choses à ma vie. Les comédies de Capra, pour commencer, les comédies de Black Edwards, les comédies romantiques anglaises. Et je trouve que la comédie, si vous prenez par exemple La Grande Vadrouille, ce que La Grande Vadrouille raconte en réalité sur la nature de l'homme, et notamment sur le comportement des uns et des autres pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça, je trouve que le partage est incroyable par rapport à ce que... Vous voyez, des tas d'autres films beaucoup plus roboratifs ont pu raconter. Et moi, ce qui me fascinait, c'est qu'une comédie comme La Grande Vadrouille était une comédie qui dénonçait tout ce qui avait pu se faire de pire pendant la guerre. Et en même temps, parce que c'était par le prisme de la comédie, parce que les gens hurlaient de rire, parce qu'on hurlait de rire de nos propres travers, c'était une, je dirais, c'était un moyen de réconciliation absolument formidable. Moi, je trouve que j'ai toujours conçu la littérature, le cinéma, je dirais comme une façon de s'unir et pas une façon de se désunir. Et moi, ce que les livres m'ont apporté dans la vie, c'est que, enfin, les livres que j'ai aimés, ce sont des livres où les personnages et les histoires que traversaient ces personnages me donnaient envie d'eux, moi-même, enfin, vous voyez, me donnaient envie d'aimer, me donnaient envie d'être, me donnaient envie d'être meilleur ou d'être moins pire. Et je trouve que la comédie est formidablement propice à ça. Et puis, encore une fois, la comédie, c'est un merveilleux moyen de partager des questions sans prétendre qu'on est détenteur d'une réponse. Mais je trouve que partager une question, c'est déjà partager quelque chose. Alors que prétendre qu'on est détenteur d'une réponse, c'est s'attribuer une intelligence supérieure aux autres, alors qu'on ne sait pas grand-chose des autres. Donc voilà pourquoi pourquoi j'aime le registre de la comédie. Oui, enfin, si vous prenez le cahier des charges de ce roman, entre guillemets, ce dont ce roman parle, donc il y a une héroïne qui se déplace en fauteuil roulant, il y a un Indien, il y a le thème de l'immigration, il y a Deepak et Lali qui ont dû fuir leur pays, qui se sont retrouvés immigrés aux États-Unis parce qu'il leur était interdit de s'aimer en Inde parce que de castes différentes, donc il y a, je dirais, l'ignorance et le rejet des familles, parce que tout à coup, l'envie de s'aimer n'est pas conforme aux mœurs ou au règlement des 10 familles. Il y a le thème de la vieillesse qui est abordé dans le roman, le thème de la différence sociale, etc. Donc en fait, le pari, c'est vous prenez tout ça et à la fin, vous dites, mais c'est une comédie. Et donc, c'est parce que si après avoir pris tout ça, vous dites c'est un drame, moi je me mets au Prozac avant d'avoir acheté le bouquin. Et donc, mais voilà, au travers d'une comédie, on peut partager tout ça et finalement avoir à l'égard des personnages une empathie, une tendresse qui nous donne envie finalement de nous intéresser à notre point de vue. Bon, la scène que vous avez lue tout à l'heure sur le passage de. Sur ce que le ressenti de Chloé dans le métro fera peut-être que pour ceux qui l'ont lu, la prochaine fois que vous êtes dans le métro et qu'il y a quelqu'un en fauteuil à côté de vous, vous allez avoir une attention ou un regard qui est un peu différent. Et vous voyez, cette scène n'est en aucun cas une leçon de morale, c'est juste le témoignage d'un moment de vie. Mais je me dis, voilà, juste après, peut-être que, alors si ce livre n'aura servi qu'à ça, ce sera déjà une comédie qui aura servi à quelque chose. Merci mille fois.